Guy de Pontalès, le remonteur de pendule. Un de nos rois du temps jadis, roi encore jeune, mais déjà sujet à l'ennui, car il n'avait point d'enfants et plus de femmes, bâillait un jour à la fenêtre de son palais lorsqu'il vit passer dans une voiture à âne un artisan qu'il ne connaissait pas. Il l'interpella aussitôt. Hey, « Hé, toi, là-bas, l'homme à la voiture à âne, qui donc es-tu ?»«
Je suis le remonteur de pendule, » dit l'autre en arrêtant sa carriole.
« Et toi, qui donc es-tu ?»«
Je suis un serviteur du palais, » fit le roi en cachant vite sa couronne dans un placard.
« Tu m'as l'air assez paresseux pour cela, » répliqua le remonteur de pendule. « Mais puisque nous voilà en train de faire connaissance, je vais te demander quelque chose. »«
Quoi donc ?» fit le roi, qui se trouvait justement d'humeur à causer.
« Eh bien voilà, tu pourrais peut-être m'obtenir la pratique de Sa Majesté et me faire nommer fournisseur de la cour. Je n'ai jamais remonté les pendules royales et je suis certain qu'elles marchent tout de travers, comme le commerce et la politique. Or, quand tes pendules ne vont pas, rien ne va dans un pays, comme chacun sait. Fais-moi entrer au palais et laisse-m'y remonter les pendules. Tu verras que bientôt, tout ira mieux pour toi, pour moi et pour le peuple.
Et que me donneras-tu en échange ?
Je te donnerai une belle pièce d'or à l'effigie de notre gracieux souverain, dit le remonteur de pendule. J'en ai quatre pour toute fortune. L'une pour ma femme, quand je n'y serai plus. L'autre pour acheter ma place au cimetière. La troisième pour ma fille. La quatrième sera pour toi, si tu tiens parole. Cet homme plut au roi, qui le fit entrer dans le palais après avoir vite revêtu une veste de valet afin de n'être pas reconnu. Le remonteur tenait dans une main un énorme trousseau de clés, dans l'autre ses outils d'horloger. « Tu vois, » s'écria-t-il dès qu'ils eurent pénétré chez le premier grand concierge dont la loge était vide. « Que t'avais-je dit ? Voilà une pendule qui bat la breloque et un concierge en promenade. Peu lui chaud l'heure qu'il peut être et que le palais soit bien ou mal gardé. Or, pas d'exactitude, pas de conscience. Tel est le proverbe de l'horloger. Là-dessus, il remonta et régla la pendule qui n'en revenait pas et qui, dans son étonnement, se mit à sonner 30 fois de suite. Puis ils traversèrent la première grande cour du palais. L'équipage de la reine-mère y attendait depuis plusieurs heures le bon plaisir de Sa Majesté douairière. Le cocher dormait sur son siège. L'un des chevaux laissait pendre sa tête, l'autre toussait. « Eh bien, monsieur le valet, » reprit le remonteur en s'adressant au roi, « que conclus-tu de ce triste spectacle ?»«
Mais rien, » fit celui-ci tout interdit.
« Eh bien, moi, je conclus que la reine-mère a une pendule qui ne marche pas, puisqu'elle laisse attendre si longtemps ces trois pauvres bêtes, dont l'une est déjà malade, dont l'autre le sera demain, et la troisième finira bien, l'un de ces jours, par dégringoler de son siège en dormant. » Ils prirent ensuite le grand escalier d'honneur, en haut duquel trônait une horloge célèbre dans le monde entier, et qu'on appelait l'horloge horoscopique. C'était une superbe pièce de la taille d'une personne, encadrée à droite et à gauche par deux arbres d'or massif où voletaient des oiseaux en porcelaine de la Chine. Au milieu du cadran, on apercevait, caché dans un nid d'argent, un rossignol aux yeux faits de rubis et d'émeraudes qui chantait une fois l'an à minuit et donnait l'horoscope du royaume, c'est-à-dire qu'il prédisait les événements principaux de l'année et y ajoutait quelques conseils à l'usage du roi. Aussi, imagine-t-on de quels soins cette pendule merveilleuse était entourée. Malheureusement, elle était arrêtée depuis 7 ans, 2 mois, 5 jours, 9 heures, 16 minutes et 21 secondes, ainsi qu'on pouvait le lire au cadran, lequel donnait en plus les constellations, les lunaisons et marquait les années bissextiles. Du moins, le remonteur de pendule constata-t-il tout cela d'après sa propre montre qui ne variait jamais d'une demi-seconde. Elle s'est arrêtée le jour de la mort du feu roi, dit le roi, qui faillit ajouter « mon père ». Et la clé en a été perdue. Mais jusqu'ici, personne n'a su en refaire une et le rossignol aux yeux de rubis et d'émeraude a cessé de chanter. Saurais-tu, toi, lui rendre la voix ? Je le crois, répondit le petit homme avec assurance, mais il faut que tu me laisses prendre des empreintes. Il sortit la cire de sa poche et fit le nécessaire. Le roi ouvrit ensuite la galerie des glaces, d'où ils passèrent dans les appartements privés. Sur toutes les cheminées se trouvaient des pendules. Les unes représentaient le temps avec sa faux, d'autres des dames déshabillées jouant avec des enfants qui leur jetaient des couronnes de roses. Sur l'une se tenait un cerf aux abois, cerné par les chiens. Sur l'autre, un cygne renversait une petite fille et la piquait avec son bec. Il y en avait en marbre, en or, en argent massif, en albâtre, en bronze, en bois des îles, en jade, en lapis lazuli. Mais si aucune ressemblait à sa voisine, elles avaient toutes un trait commun. Pas une seule ne marchait. Même histoire dans les bureaux des ministres. Partout, des pendules arrêtées, déréglées ou battant la breloque. « Comment veux-tu que ça marche dans le pays ?» s'écriait le petit homme en levant les bras au ciel. « Vous devez être là-dedans, une fameuse bande de propre à rien. Est-ce que vous dormez toute la journée dans vos antichambres ? Je parie que le roi doit manger de bien mauvaise cuisine. » Étant descendu dans les sous-sols, ils constatèrent en effet que la pendule des sauciers avait une heure de retard sur celle des rôtisseurs, laquelle suivait de 5 quarts d'heure celle des pâtissiers, ce qui fait que le dîner du roi se cuisait à l'envers. « Rappelle-toi bien ceci, » dit encore le remonteur, « sans bonne pendule, ni honnête femme, ni bon dîner. Voilà aussi pourquoi le roi n'a pas d'enfant. » Qui fut étonné ? Ce fut le roi. « Ah, bah !» fit-il. « C'est certain !» reprit le remonteur de pendule. « Et si le roi n'en sait rien, c'est sans doute qu'il est aussi sot que ceux qui l'entourent. » Vexé par ces paroles, le roi répliqua. « Tu m'apprends tant de choses aujourd'hui qu'à mon tour je vais t'en apprendre une. Le roi, c'est moi. » Mais le remonteur de pendule rit cette fois à gorge déployée et lorsqu'il eut repris son souffle, « Je l'avais bien dit, ceux qui entourent le roi sont aussi fous que lui, » ajouta-t-il. « Fais-lui donc ce message de ma part, ami valet. Le remonteur de pendule fait savoir à votre majesté que pour avoir un fils et donner un successeur au trône, il faut d'abord qu'elle fasse sonner correctement ses pendules. Quand elles sonneront, le roi trouvera bonne table, bonne femme et brave héritier. Sur quoi il tira au roi ébahi un grand coup de chapeau, grimpa dans sa voiture à âne et disparut. Or, le roi était triste de n'avoir pas d'héritier, il est vrai. Quoique jeune encore, il avait eu déjà 2 femmes. La première ne l'aimait pas. Il l'avait gardée 3 ans et comme elle ne lui donnait pas d'enfant, il l'avait renvoyée au roi son père. La seconde, c'est lui qui ne l'aimait pas. Il la garda cependant 3 ans, comme l'autre,
et n'ayant d'elle aucun enfant, il la renvoya aussi au roi, son père. Mais il ne se décidait point à prendre femme pour la troisième fois, comme le voulait la reine mère. Il chassait le lièvre dans la campagne, pêchait le brochet ou la truite dans le lac, et suivait à sa fenêtre les rêves sans queue ni tête qui, du fourneau de sa pipe, montaient dans le ciel bleu. Il était ce qu'on appelle un roi fainéant, et laissait tout faire à ses ministres. Mais comme ceux-ci ne faisaient rien, les choses allaient ensemble au gré de chacun. Aussi le peuple aimait-il son souverain et lui reprochait-il seulement de n'avoir pas d'enfant. Cependant, les paroles du petit homme lui trottaient dans la cervelle. Il envoya des courriers le jour même aux quatre points cardinaux pour retrouver l'horloger dans sa voiture à Anne, mais personne ne put le découvrir. D'autres courriers partirent les jours suivants à sa recherche. Il demeura introuvable. Le roi fit alors venir l'un après l'autre les horlogers de sa capitale et menaça de les faire jeter en prison s'ils ne parvenaient pas à régler, comme il fallait, toutes les pendules de la ville et du palais. Il voulait surtout qu'ils remissent en mouvement la fameuse horloge horoscopique qui prophétisait le destin royal. Mais aucun d'entre eux n'y parvint, tant la mécanique en était compliquée et les rouages petits. Aussi le roi avait-il déjà donné ordre de passer des menaces aux actes, lorsqu'un des courriers l'informa qu'il croyait avoir retrouvé le remonteur de pendule et sa voiture à Anne. C'était tout simplement un petit boutiquier de campagne qui habitait à 3 lieues de là, dans un village au bord du lac. Le roi s'y rendit dès le lendemain, à cheval et seul, afin de ne donner l'éveil à personne. Quand il fut arrivé, il attacha sa monture à un pommier rose tout en fleurs et parcourut d'abord les 3 rues d'un des plus jolis villages de son royaume. Les glycines à 2 troncs enroulés l'un sur l'autre, encadrés de leurs grappes mauves, la plupart des porches des vieilles maisons. Les hirondelles venaient d'arriver. Des petites filles, au visage sérieux, célébraient un mariage de poupées devant le grand lac bleu où volaient les mouettes. Enfin, les toits profonds tout habités d'oiseaux, l'antique église, les bonnes femmes pelant des pommes de terre sur le pas de leur porte, tout cela remplit le cœur du roi d'une tendre mélancolie. Hélas, pensait-il, si seulement les pendules marchaient comme elles devraient, si seulement je trouvais une nouvelle reine, si seulement naissait d'elle l'héritier de ce beau petit royaume. Mais il ne pouvait épouser qu'une princesse véritable, et toutes celles des alentours étaient mariées. Et la reine mère lui avait fait jurer de ne pas consulter les sorciers. Tout en faisant ses réflexions, il était arrivé devant une arche de pierre fort ancienne, surmontée d'un clocheton en dessous duquel on lisait cette inscription en lettres gothiques. « Celui qui veille voit arriver l'heure de son départ. » Tandis qu'il déchiffrait ces lettres difficiles, il entendit ouvrir une fenêtre dans la maison à côté de l'arche, et il y vit paraître le plus joli visage de jeune fille dont un roi puisse rêver. « Que cherchez-vous, mon beau seigneur ?» demanda une petite voix claire. « Je cherche le remonteur de pendule breveté de Sa Majesté le roi, notre maître, lequel m'envoie lui présenter son diplôme de fournisseur de la cour. »« Minute !» dit la voix qui disparut. Bientôt, elle se fit entendre de nouveau. Un verrou fut tiré, la porte s'ouvrit et le roi entra dans une boutique que le tic-tac de plusieurs centaines de pendules accrochées au mur rendait aussi bruyante qu'une volière de moineaux. Les petits cœurs pressés tapaient, tapaient, les coucous haletaient, haletaient. Les petits et les gros balanciers travaillaient, travaillaient. Enfin, on sentait que tout le monde était à sa tâche et que le plus lent morbier des cuisines de campagne, comme la plus rapide des pendulettes pour sac de dames, n'avançait ni ne retardait d'une seule minute sur le cadran solaire. Chacun ici accomplissait ponctuellement son devoir d'un bout à l'autre de sa longue ou brève existence. Chacun paraissait être un exemple vivant du dicton de l'arche. Celui qui veille voit venir l'heure de son départ. Pour la première fois de sa vie, le roi se sentit honteux, sans savoir au juste de quoi. « Mon père va sans doute rentrer d'un instant à l'autre. Veuillez donc vous asseoir, monsieur l'envoyé royal, » dit la jeune fille. Le roi s'assit et commença de s'intéresser à toutes les pendules qu'elle lui montra. Il remarqua qu'elle avait des doigts de fée, des pieds de princesse, des yeux de pervenche et une bouche qui ressemblait au cœur d'une rose. Il apprit qu'elle faisait elle-même des montres et elle lui en fit voir de si petites qu'il fallait les enfermer dans un tiroir pour les soustraire aux papillons et aux abeilles qui s'en emparaient pour les offrir à leur reine. En bref, il tomba éperdument amoureux de la fille de l'horloger avant même que celui-ci fût de retour. Aussi, lorsqu'enfin l'anon s'arrêta devant la porte et que le petit homme descendit de voiture tenant sur son épaule deux aiguilles d'horloge villageoise qui ressemblaient à des hallebardes, le roi, malgré sa paresse, courut-il l'aider. « Ah, c'est toi, mon garçon ?» fit le bonhomme. « Est-ce que par hasard, tu m'apporterais le brevet du roi ?»« Justement, » dit celui-ci en tirant de sa poche un rouleau de parchemin. « Parfait, parfait !» reprit le remonteur. « Au moins, une fois dans ta vie, tu auras servi à quelque chose. Et puisque tu as tenu ta parole, je tiendrai la mienne. Voici la pièce d'or à l'effigie de notre roi, bien gracieux. » Le roi refusa. Le remonteur insista. Le roi refusa encore. Le remonteur insista de nouveau, sans s'apercevoir que l'auguste profil qui passait ainsi d'une main dans l'autre était identique à celui du faux domestique. On en peut conclure que le graveur n'avait pas trop bien exécuté son travail, car le roi ne fut pas reconnu. Il gagna donc ce jour-là sa première pièce d'or, mais il perdit son cœur. Dès le lendemain, en effet, il revint au village et déclarait qu'il voulait se faire horloger. Le petit homme y consentit bien volontiers, car il avait beaucoup à faire et cherchait un ouvrier. Ainsi, dès ce moment, le roi devint son apprenti, ou plutôt celui de sa fille. On n'en vit jamais de plus appliqué. Il arrivait de bon matin, attachait son cheval au pommier et se mettait aussitôt à l'œuvre, à côté de sa petite maîtresse. Que d'heures ils passèrent ainsi, coude à coude, devant l'établi, la loupe à l'œil, pour lire plus clairement leurs sentiments. Que de journées vécues tout proches, l'un de l'autre, à étudier les rouages compliqués de l'âme des montres. Que de semaines avant de s'avouer qu'ils ne pourraient plus jamais séparer leur tabouret de travail, ni même peut-être leur vie. Cependant, si le roi était chaque jour plus heureux, la fille de l'horloger devenait chaque jour plus triste, car l'apprentissage serait bientôt terminé, et chaque fois qu'elle levait les yeux, le clocheton lui disait « Celui qui veille voit venir l'heure de son départ. » Alors elle pensait au départ de celui qu'elle savait bien ne pas être un valet. Enfin, le jour vint où le remonteur de pendule déclara qu'il avait achevé la mise en ordre des horloges de la campagne et qu'il était temps, à présent, de se rendre dans la capitale. Il fit donc ses paquets, monta dans sa voiture à Anne avec sa fille et débarqua un matin dans la cour du palais. Le roi voulut lui ménager une surprise et le reçut sur son trône. Vous croyez peut-être que le petit horloger allait tomber les quatre fers en l'air de surprise ? Nullement. Il demanda seulement qu'on lui donnât une bonne armoire pour y ranger ses clés et ses outils, et pria qu'on les laissât, lui et sa fille, travailler en paix à la grande horloge horoscopique. La porte en fut ouverte, l'horloger y enferma sa fille et se mit tranquillement à réparer et à régler toutes les autres pendules du palais. Le pauvre roi ne savait que faire de son temps maintenant qu'il avait pris l'habitude du travail. Il passait et repassait toute la journée devant l'horloge, où il entendait frapper et visser. Il jetait parfois un baiser furtif dans un coin du cadran, parce qu'entre deux belles étoiles peintes, il apercevait deux yeux couleur de pervenche. Il ruminait des idées sombres, car la reine mère, dès qu'elle sut que son fils songeait à épouser une horlogère, lui déclara tout net qu'elle ne le permettrait jamais. Or, le jour vint où le remonteur annonça que toutes les pendules étaient en parfait ordre de marche, même la célèbre horloge horoscopique. Un grand bal fut donné à cette occasion, où l'horloge, comme le voulait la tradition, devait être interrogée au coup de minuit sur l'avenir du roi et du royaume. La reine mère, le souverain, la cour, les ministres et les ambassadeurs étrangers y assistèrent en grande pompe. À minuit moins 2 minutes, il se fit un profond silence. 12 coups argentins sonnèrent bientôt comme s'ils eussent été frappés sur un timbre de cristal. Puis le rossignol, aux yeux de rubis et d'émeraude, s'inclina gracieusement à droite et à gauche, fit une révérence à la reine mère et chanta ce vieux couplet des temps passés. Beau sire, mariez-vous vite, beau sire, mariez-vous. Que non, ma belle, j'ai peur de m'ennuyer, j'ai peur de m'ennuyer. Beau sire, mariez-vous vite, beau sire, mariez-vous. Que non, ma belle, j'ai peur de déroger, j'ai peur de déroger. Beau sire, mariez-vous vite, beau sire, mariez-vous, avec la fille de l'horloger, avec la fille de l'horloger. La stupeur fut grande, mais c'était la voix du destin. Les gens de cour toussèrent très haut. Quelques invités, peu au fait des usages, applaudirent. La reine mère se leva et partit scandalisée. Mais le roi semblait devenu un autre homme. L'horloger fut fait duc à Brevet dès le lendemain. Sa fille devint princesse et la reine mère, n'ayant plus d'objection à élever contre la roture de l'épouse, le mariage eut lieu 3 jours après. La noce fut splendide, le peuple entier y prit part avec allégresse, et le remonteur de pendule devint au soir de cette journée mémorable ministre d'État. On lui confia le portefeuille des pendules créé 1 heure auparavant. Mais mon conte ne finit pas là, comme vous pourriez le penser, car à partir de cette nomination, l'histoire du pays du milieu du monde fut changée de fond en comble et en moins de temps que je ne mets à vous le raconter. Dès le lendemain, en effet, le règne des pendules commença. De nouvelles lois furent promulguées par décret. Le ministre exigea que les pendules fussent désormais contrôlées dans toutes les familles. Tout individu du sexe masculin ou féminin fut astreint à avoir au minimum 2 montres sur lui et il devait les soumettre une fois par semaine au bureau des vérifications. Des centaines de nouveaux fonctionnaires appartenant au ministère des pendules sillonnèrent le pays en tous sens. Les bureaux, les magasins, les fabriques ouvrirent dès lors leurs portes à la seconde précise. Les diligences partirent exactement à l'heure, ce qui ne s'était pas vu de mémoire de milieu du mondiste. Les balayeurs des rues ne se reposaient plus sur leurs balais en faisant la causette avec les portières, mais ils balayaient sans trêve ni repos. Le travail des champs se faisait au signal des sirènes. L'armée portait et reposait armes au commandement d'aiguilles électriques manœuvrées par le général. Et si par hasard quelqu'un perdait une minute, la gendarmerie se mettait aussitôt à sa recherche et la ramenait par l'oreille à son propriétaire. Même les loisirs, même le repos, même le sommeil dépendaient du ministère des pendules. Et tout fut si bien réglé que le commerce et l'industrie, surtout l'industrie horlogère, connurent une époque de haute prospérité. Seulement, une calamité imprévue s'abattit bientôt sur le pays, et cette calamité s'appelait l'ennui. L'ennui s'empara du peuple tout entier, depuis le dernier des sujets jusqu'au roi en personne. Car le pauvre roi ne rentrait plus chez lui qu'à l'heure des repas, pour repartir aussitôt présider son conseil, où il bâillait et se tortillait sur son trône jusqu'au soir. Aussi, la reine se désolait toute seule dans sa grande chambre, car lorsque son époux rentrait, il n'avait pas seulement le temps de l'embrasser, qu'il dormait déjà à point fermé. Elle n'avait toujours pas d'enfant, et la reine-mère riait sous cape, pensant que le roi renverrait chez elle, au bout de 3 ans, cette bru détestée. Une nuit de printemps, que tout dormait au palais, sauf le rossignol qui s'égosillait dans les lilas du jardin royal, la jeune reine se prit à regretter la tendre saison qu'elle avait passée aux côtés de l'apprenti horloger dans l'humble boutique villageoise. Elle alla vers la fenêtre ouverte et se mit à pleurer. Pourtant la nuit était douce comme le chant du chanteur invisible et parfumée du merveilleux parfum de l'amour. Mais la petite reine pleurait quand même. Elle songeait à l'établi couvert d'outils, aux 2 tabourets rapprochés. Elle se revoyait accompagnant l'apprenti royal jusqu'au pommier où son cheval restait attaché. Avant de mettre le pied dans l'étrier, il baisait la toute petite main de fée. Il plongeait son regard dans les 2 pervenches et cueillait, comme il disait, un pétale de rose sur le rosier. Et ce souvenir la fit sangloter si fort que le rossignol l'entendit et se mit à chanter en son langage. « Oh, petite reine, pourquoi pleures-tu? Ne sais-tu pas que tu as pris à l'amour ce qu'il ne peut donner 2 fois ?»«
Je le sais, » dit la reine, « et c'est aussi pourquoi je pleure.
Mais ignores-tu, petite reine, que le rosier d'amour où le roi cueillait des pétales fleurit chaque printemps de manière différente ?
Comment le saurais-je ? Dit la reine, puisque je n'ai appris à aimer qu'au printemps passé.
Sache donc, reprit l'oiseau, qu'il te suffit d'apprendre à chanter. Écoute-moi bien, mon art n'est pas dans mon gosier, il est surtout dans mon cœur. Mais ce que j'ai dans mon gosier, tu l'as dans tes petits doigts. Et ce que j'ai dans le cœur, tu l'as aussi dans le tien. Défends comme moi ce qui t'appartient. » La reine écouta longtemps et avec beaucoup d'attention. Et pendant qu'elle écoutait, il lui sembla que le rossignol variait sans cesse ses mélodies. Parfois elles étaient sentimentales et romantiques, parfois tragiques, parfois calmes et sereines.
puis elle partait en roulade moqueuse qui paraissait s'adresser à quelque rival caché dans le bosquet voisin. Et soudain la reine comprit qu'elle avait une rivale, elle aussi, qui n'était autre que la vieille horloge horoscopique. C'est d'elle assurément qu'elle tenait sa couronne, mais c'est elle maintenant qui tuait son amour. Alors elle prit son bougeoir, se faufila en chemise de nuit au dehors, traversa la galerie des glaces où toutes les pendules sonnaient minuit et ouvrit la porte à secret de la grande pendule. Elle y entra tout entière, la petite reine. Elle glissa sa main minuscule jusque dans l'âme même du merveilleux mouvement où nul doigt, sauf les siens, ne pouvait pénétrer. Un déclic se produisit aussitôt. L'horloge s'arrêta, et du même coup, comme si elle était l'aimant mystérieux de toute l'horlogerie du royaume, les aiguilles devinrent folles partout. Celles des horloges d'église, celles des pendules et des pendulettes, celles des montres et des réveils matins. Alors la reine se recoucha vite et attendit. Comme le roi dormit tard ce jour-là, il n'ouvrit un œil que vers 10 heures et se trouva d'une humeur délicieuse. Il voulut déjeuner dans son lit avec sa petite épouse. À midi, les chambres n'étaient pas encore faites. En ville, c'était encore pis. Quelques magasins seulement avaient ouvert leurs portes, comme le dimanche. Les gens parlaient tous d'aller se promener à la campagne. Aucune diligence ne partit, et le nombre des minutes perdues s'accrut tellement d'heure en heure qu'elles encombrèrent les rues, les trottoirs et les cafés. Quant au ministère des pendules, la déroute y régna jusqu'au soir, et le pauvre ministre dut se mettre au lit avec la fièvre. Mais à partir de cette nuit-là, où le vrai rossignol rendit l'imprévu, la paresse et la poésie au royaume, la joie y revint aussi. Ceux qui passaient devant le palais purent voir dès lors le roi, sa couronne sur la tête, rêvassant à sa fenêtre, comme dans le bon temps. Ou bien on l'apercevait jouant aux échecs avec son épouse. Un an ne s'était pas écoulé depuis l'arrêt de l'horloge horoscopique lorsque la petite reine, aux yeux pervenches, donna au trône un héritier. Puis elle eut 2 petites filles, puis encore 3 garçons, dont le cadet fut nommé Benjamin, parce qu'on crut qu'il serait le dernier. Mais on se trompait. Il y eut encore une petite dernière, dont je vous raconterai peut-être un jour l'histoire. Et ainsi, tout le monde fut bien heureux, sauf le remonteur de pendule. Il ne lui resta rien d'autre à faire que de retourner dans sa boutique, et chaque fois qu'il levait les yeux vers le vieux clocheton, il pouvait lire en lettres gothiques « Celui qui veille voit venir l'heure de son départ ». Alors il se disait « C'est pourtant une belle devise pour un horloger, et même pour un roi ». Et assurément, pour nous tous aussi, mes amis, mais à une condition toutefois, c'est de ne pas nous laisser transformer en pendule. Fin du conte Le remonteur de pendule de Guy de Pourtalès.